les podcasts de Radio Vatican.
Comme chaque année, l'Église célèbre la Toussaint en ce 1er novembre et honore la foule innombrable de celles et ceux, connus ou inconnus, qui à travers les siècles ont été les témoins du Christ et de l'Évangile. La sainteté n'est pas un privilège réservé à une élite choisie, ne cesse de rappeler l'Église. Elle est un appel adressé à chaque baptisé. Sainte Thérèse de Lisieux, ses parents Louis et Zélie Martin, le bienheureux Pierre Giorgio Frassati, Mère Teresa ou d'autres, sont autant d'exemples lumineux d'une sainteté vécue dans la simplicité et les plus petites choses du quotidien. C'est ce qu'on appelle la sainteté ordinaire, louée à plusieurs reprises par le pape François qui estimait, lors d'une homélie prononcée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, que l'Église avait besoin du témoignage courageux et cohérent des martyrs et des saints ordinaires. Alors, qu'est-ce que la sainteté ordinaire? À quoi la reconnaît-on? Les croyants sont-ils sensibles à son appel? Nous en parlons avec le père Nicolas Butet, modérateur de la fraternité Eucharistein, présente en Suisse et en France.
La sainteté ordinaire, c'était d'ailleurs le pape Pie X qui disait ça. On lui demandait un jour, mais qu'est-ce qu'un saint? Et il disait, un saint, c'est un chrétien normal. Et je trouve très beau cette vision du chrétien normal, parce que c'est vrai qu'on est tous appelés à la sainteté. Alors là, il faut casser l'imagerie avec laquelle on a vu les saints. On a, dans la géographie, dans la description des saints, montré des phénomènes extraordinaires, montré une héroïcité des vertus, comme on le dit toujours, et elle appartient justement à la sainteté, mais comme un fruit. Je voudrais réécrire toutes les vies des saints pour partir du moment où les saints font l'expérience de leur pauvreté, de leur vulnérabilité, de leur incapacité. Justement, la sainteté, ce n'est pas tant celle que je fais à la force du poignet, c'est surtout pas celle-ci, c'est celle que Dieu me donne. Kadosh en hébreu, qui veut dire saint, on a souvent traduit comme séparé. Or, le mot hébraïque signifie plutôt la communication de la vie. Donc Dieu est saint dans la mesure où il communique sa vie aux créatures, qui les rend participants de sa propre vie divine, et c'est parce qu'il communique sa vie qu'en retour, qu'en conséquence, on pourrait dire, il y a une certaine séparation du monde, séparation de certains milieux profanes et tout ça, mais fondamentalement, c'est la communication de la vie. Quand on regarde Maximin Kolbe, il écrit à un moment donné dans son journal, on pense à lui avec l'héroïcité dont il a su faire preuve à Auschwitz, et quand on lit son journal, on se rend compte qu'il écrit à un moment donné, mais une fois que je me suis rendu compte que j'étais bon à rien, que mes supérieurs se sont rendus compte que j'étais bon à rien et que j'étais bon qu'à être jeté à la poubelle, eh bien l'Immaculé s'est servi de ce bon à rien pour en faire quelque chose. Et l'image qu'il prend, il dit, imaginons un grand peintre qui voudrait faire un beau tableau avec un balai tout pourri. Je suis ce balai, le grand peintre et l'Immaculé. Donc la sainteté commence par une pauvreté acceptée, offerte, et une grâce de Dieu qui fait éruption dedans.
On a l'impression, en vous écoutant, qu'il y a une espèce d'incompréhension vis-à-vis de la sainteté. Pourquoi ?
On a un grand problème avec la sainteté pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une vision phénoménologique de la sainteté par des phénomènes, des expressions, des attitudes qui ne sont que le fruit d'une communication de la vie divine. Et puis la deuxième, c'est ce que le pape François n'arrête pas de dire aujourd'hui comme le grand drame de l'Église, ce qu'il appelle avec la tradition de l'Église le pélagianisme, cette hérésie qui consiste à vouloir faire à la force du poignet les choses. Et donc, on est sans cesse confronté à nos difficultés, à notre incapacité, à notre médiocrité, à nos tiédeurs, à nos lenteurs, qui deviennent un obstacle et qui consistent finalement à dire que c'est plus la sainteté ordinaire, c'est la médiocrité ordinaire. Et donc, on va balancer entre ces deux choses quelque chose d'absolument impossible parce que ça paraît extraordinaire, et de quelque chose qui est à la dimension humaine, au ratatinement, si j'ose dire, de la pauvreté humaine, qui est l'acceptation de la médiocrité comme étant un chemin. Or, ce que Dieu veut, c'est dans la finesse d'une pointe, c'est l'expérience d'une pauvreté dans laquelle s'engouffre la grâce de Dieu. Et Dieu communique en sa vie, transforme la personne. Alors, à ce moment-là, il n'y a rien d'extraordinaire, parce que c'est la simplicité même dans laquelle va se manifester une charité elle-même extraordinaire, mais dans l'ordinaire de la vie. C'est dans ce sens-là que le pape peut parler d'une sainteté ordinaire, c'est Nazareth. Il n'y a aucun phénomène extraordinaire dans la vie de Nazareth. Et c'est 30 ans de la vie du Fils de Dieu, quand même, c'est pas rien. On passe dessus ça et de manière un peu rapide, parce que l'Écriture sainte est toute simple, enfin, elle ne dit rien de spécial, mais justement, elle ne dit rien de spécial parce que chacun devrait, par son expérience, comprendre ce que c'est une vie de Nazareth à la lumière de la grâce de Dieu. Et puis, on va éviter le pélagianisme dans lequel baignent l'Église et le monde d'aujourd'hui, où avec nos techniques, nos moyens, nos méthodes, on devrait réussir à faire quelque chose. Moi, je souffre de voir tellement les chrétiens courir chez tous les thérapeutes, sur toutes les techniques de coaching, de méditation, de développement personnel, avec toutes les possibilités imaginables, et de ne pas aller simplement au pied de Jésus et dire « Seigneur, viens m'aider, viens opérer ce miracle en moi. Ben voilà ma souffrance, voilà ma blessure, voilà mon drame. Seigneur, viens en moi. » Donc la tentation pélagienne est très très forte et le pape l'a mis en lumière en permanence en disant que c'est une des grandes hérésies d'aujourd'hui. Alors le pape aimerait refaire prendre conscience aux chrétiens de cette grandeur, de cette beauté de la vie chrétienne qui est faite pour les saints, pour les pauvres, pour les malades, pour les pécheurs, et que c'est à partir du fait que je suis simple, pauvre, malade, pécheur, que je peux entrer dans la sainteté, que c'est la condition sine qua non, c'est le ticket d'entrée d'être pauvre, malade et pécheur.
Alors, la sainteté ordinaire, ce n'est pas une sainteté au rabais, loin de là. Alors, à quoi peut-on la reconnaître ?
Si on prend par exemple un modèle de sainteté ordinaire qui est Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, on la voit par l'extraordinaire liberté intérieure de la personne. Chez les saints, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense d'eux. Ils ne sont pas coincés, engoncés ou enfermés dans des idéologies. Ils ne sont pas fermés dans l'esprit du monde. Ils ne sont pas fermés dans leur ego. Ils ne sont pas fermés dans leurs blessures et leurs souffrances. Ils ont offert tout ça à la lumière de Dieu. Et, c'est-à-dire, la caractéristique principale de ces gens, c'est la liberté intérieure. On le voit chez des gens tout ça. Moi, je suis frappé. J'étais en Chine il n'y a pas longtemps. Une dame de 92 ans était là, aveugle. J'étais bouleversé par la liberté intérieure. Elle n'a jamais quitté son petit village dans les contreforts de l'Himalaya. Elle a été paysanne toute sa vie. Elle m'a dit, entre 5 ans et 12 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années en arrière, 80 ans avant le moment où je l'ai rencontrée, et les missionnaires nous ont appris une chose, c'est qu'il faut toujours faire les choses avec Jésus, toujours lui parler, et toujours garder la paix et la joie du cœur en toutes circonstances. Parce que quand on perdait la paix et la joie du cœur, c'est qu'on s'était éloigné de Jésus. Alors j'essaie d'appliquer ça toute ma vie. Eh bien, elle avait reçu l'essentiel, et elle a gardé ce trésor. Et je me suis mis à genoux devant cette femme et je lui ai baisé les mains parce que pour moi, c'était une sainte, vraiment. La deuxième caractéristique qui résulte de celle-ci aussi, de cette liberté, c'est d'être dérangé. Une phrase qu'aimait beaucoup le pape Benoît XVI, qu'a repris le pape François, c'est d'être en extase. L'amour nous extasie, nous sort de nous-mêmes, nous porte vers l'être aimé, qui est Dieu et l'autre. Et ce que rajoutait le pape François, cette extase de Benoît XVI, c'est l'amour nous met en exode de nous-mêmes, vers les plaies de nos frères et sœurs. Donc l'autre caractéristique de la sainteté, c'est vraiment, après cette liberté intérieure qui vient d'avoir compris que je suis enfant de Dieu, fils et fille du Père, c'est véritablement de sortir vers la souffrance des autres, de ne pas se préoccuper de soi, mais d'être totalement donné, livré. Je suis donné à moi-même par un Dieu qui est mon Père, je m'accueille comme un enfant de Dieu, et je me retrouve vraiment en me donnant aux autres. Cette logique de service, cette logique de don, cette logique d'exode et d'extase qui va caractériser en quelque sorte cette sainteté ordinaire. Et du coup, de nouveau, elle se manifeste par ces petits gestes du quotidien, par ces petites attentions, par ces acceptations de l'inconfort que je vis moi-même pour que l'autre vive bien, de ces dérangements que je vis moi-même avec des sourires pour servir l'autre, et parfois même de ces arrachements profonds qui me sont demandés par la vie et par les circonstances, par le réel de l'existence. C'est peut-être le point qui réunit aussi les deux aspects, c'est ce que Karl Rahner appelait la sacramentalité du réel. C'est dans le réel que Dieu me parle. Il y a véritablement un côté sacramental ou sacramentel, même pourrait-on dire, du réel, un lieu où je rencontre Dieu et où Dieu me communique sa grâce, parce qu'en vivant dans l'instant présent tel qu'il m'est donné, eh bien, je vais pouvoir m'approcher de Dieu, vérifier mon état intérieur, faire les pas que Dieu me demande de faire, dans le don de soi et dans l'intériorité aussi, bien sûr, parce que je vais devoir mendier la grâce pour affronter ce réel qui me dérange, qui me décape. Donc liberté intérieure, une extase qui me met en exode, et puis le sens profond du réel, du réalisme. Et de nouveau, on voit que ça, c'est la vie quotidienne, c'est la vie ordinaire.
Selon vous, est-ce que le désir de sainteté, l'aspiration à la sainteté, c'est quelque chose de toujours d'actualité chez les croyants d'aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'ils ne considèrent ça que comme, au mieux, une utopie inaccessible, ou au pire, quelque chose de suranné et de complètement dépassé?
C'est encore le pape Pédis qui disait « continuer à se dire chrétien, mais en renoncer à être un saint, c'est le formalisme qui tue tout, finalement ». Donc je crois que Dieu nous appelle, il ne s'agit pas de savoir ce que moi je pense de moi ou ce que moi je désire pour moi, c'est-à-dire simplement un strapontin ou une certaine médiocrité de sainteté, non. Dieu m'a appelé à être parfait comme le Père Céleste est parfait. Donc là, je n'ai pas le choix. Le baptême est un appel profond à la sainteté et même, j'allais dire, au martyr. Donc, où je suis chrétien, je suis cohérent avec cet appel que Dieu pose sur ma vie, ou je renonce à me dire chrétien en choisissant une autre voie qui est autre chose. C'est ce que Jean-Paul II appelait la voie de la gradualité qui consiste à progresser vers ce sommet que Dieu me demande d'atteindre, ou alors la gradualité de la loi qui consiste à fixer moi-même l'objectif que je veux. Donc là, c'est pas facile. Je vais vivre ce que les psychologues appellent une dissonance cognitive, c'est-à-dire un choc terriblement inconfortable et angoissant entre ce que je suis et l'idéal qui m'est demandé de vivre. En psychologie, pour résoudre la dissonance cognitive, il faut abaisser l'idéal. Pour nous, il faut s'élever. Mais comme on est incapable, il ne reste qu'une chose à faire, c'est de plonger dans la grâce. Donc, désirer être saint, c'est comprendre le primat de la grâce et le primat de la prière. Et donc, je rentre vraiment dans ce sérieux de la vie chrétienne quand j'ai compris que ce n'est pas moi qui fixe l'objectif, mais Dieu lui-même, qui m'appelle à la sainteté, que c'était absolument impossible. Et ce que Thérèse dit, ce ne sont pas tellement les désirs, mes grands désirs, qui plaisaient au Père. Ce qui plaisait au Père, en moi, c'est de me voir aimer ma misère. Une misère qui était offerte à la miséricorde et qui, par la prière, par l'adoration, par le cœur à cœur, était pénétrée de la grâce de Dieu et surélevée, dépassée par la puissance de Dieu qui n'était pas dans la faiblesse et qui est capable de faire en nous bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander et envisager. Donc, cette expérience profonde, le soi, c'est ça, le désir est nécessaire, sachant bien que ce n'est pas ça l'essentiel. Mais si je n'ai pas le désir, je vais nécessairement tomber dans la tiédeur ou dans ce qu'on appelle l'acédie, sorte de dégoût de la joie de l'amour de Dieu. Et c'est peut-être le plus grand des maux aujourd'hui chez les chrétiens. La société est assez acédiaque, si j'ose ce néologisme. Elle est malade de ce manque de ferveur, de ce manque d'enthousiasme, dans le sens étymologique du terme, de la plénitude de Dieu. Et donc, on est rongé par la sédie et la tiédeur, qui finalement sont les pires des maux. Donc le désir est absolument nécessaire, tout en sachant bien que ce n'est pas tellement ça qui doit m'émerveiller et me bouleverser. C'est que Dieu m'aime tel que je suis, et que la grâce déployée dans ma faiblesse, mais puisée à la prière et au sacrement, est capable de faire le miracle impossible à moi-même. De sorte que cette dissonance cognitive, ce décalage qui est entre le moi actuel et l'idéal du moi, n'est plus résolu par une diminution de l'idéal du moi, qui serait le raccadement et la médiocrité dont je parlais tout à l'heure, qui ne serait pas résolu par des efforts surhumains et impossibles, ou transhumains, si j'ose dire même aujourd'hui, pour essayer d'atteindre cet idéal du moi qui est impossible d'atteindre par moi-même, mais dans l'acceptation humble de ma condition, sachant que l'irruption de la grâce dans cette pauvreté, c'est l'impossible.
Des propos recueillis par Manuela Affigie.